Catherine Le Matin. Voici le Doc Mayou.
Ça, lui, quand on le contrôle, on essaie de le contrôler. Bonjour, Docteur Mayou.
What?
Catherine, tu commences à me connaître. Raphaël, Serge et Claude. Claude, c'est pas ta meilleure.
Non, je sais bien, mais je précise, j'ai bien dit contrôle entre guillemets.
Oui, je t'ai entendu. Heureusement que t'as des guillemets parce que tu te serais fait rentrer dedans.
J'en connais un qui va les fermer.
Ouais, c'est ça.
On va te les fermer, mon Claude.
Parfait.
Alors, 13 ans. C'est le début d'une période d'individuation. C'est le début d'une période de découverte de ses particularités.
D'affirmation aussi.
De sa singularité.
Ouais.
De son affirmation. Ben, c'est-à-dire, l'affirmation est commencée depuis longtemps, cher Claude. Depuis à peu près 5 ans, 6 ans, l'affirmation est débutée. Mais la découverte de ce qui nous distingue des autres, le début en interaction, en interrelation, c'est beaucoup à l'âge de 13 ans. Et je suis absolument ravi, Raphaël, de l'étude britannique. Dans la plupart des niaiseries, ça ne dépasse pas 40 %. Mm-hmm. Donc, 60 % des jeunes Britanniques ont de l'oxygène pour se découvrir et respirer. Très bonne nouvelle, Raphaël. 60 %, je suis impressionné.
Ah ouais. Bon.
Alors qu'il y ait 40 % de parents morons, écoute, je suis pas surpris. Maintenant, des parents qui sont respectueux de l'évolution de leurs jeunes à partir de l'âge de 13 ans particulièrement, c'est une bonne nouvelle.
Alors quand on respecte notre adolescent, on fait quoi comme parent? Qu'est-ce qui
on le respecte?
Non, mais je veux dire comme
alors,
quoi,
perte de contrôle, on arrête. Écoute, l'apprentissage à la responsabilisation commence à quel âge, Catherine?
Ben, jeune. C'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça. Je sais pas.
3, 4, 5 ans.
Ben, c'est sûr, je pense que 4, 5 ans, peut-être?
Ben oui, 3, 4, 5, tranquillement.
Ça dépend des enfants aussi, peut-être?
Exactement, dépendamment des enfants. Alors, ce n'est pas... Les apprentissages à l'autonomie ne commencent pas à 13 ans. Ça commence bien avant. Alors, on habitue l'enfant à toutes sortes de petites tâches, ranger ses affaires, choisir son linge, manifester ce qu'il aime davantage manger.
Et est-ce qu'il y a certains jeunes qui s'émancipent un peu plus tôt que d'autres? Parce qu'il dit ici, on
tout
dit que
fait.
C'est une majorité de parents, donc 60 % trouvent que c'est à partir de 13 ans. Il y en a 1 sur 10 qui disent que c'est à partir de 10 ans que leur enfant commence justement à s'émanciper et à vouloir, pas voler de ses propres ailes, mais faire son chemin un petit peu, là.
Ben oui, graduellement. C'est pas faire son chemin. C'est. Écoute, je voulais traiter de l'infantilisation ce matin. Il y a la plupart des parents, ils l'ont pas.
Et
perte de contrôle de son jeune à 13 ans. C'est qu'à partir de 13 ans, il devient singulièrement important que graduellement, le jeune être humain prenne contrôle.
Mais j'ai...
Tiens, Claude, qu'en dis-tu?
Ouais, non, je suis d'accord avec
ça. Prise de contrôle graduel.
Oui, parce que...
Dans le respect des autres.
L'adolescence, je vois ça, moi, c'est le passage vers l'âge adulte. Tu sais, la personne devient, je cherche le terme pour le dire...
Plus autonome, plus...
Oui, ben oui, puis devient elle-même, carrément.
Merci, Claude. Hein?
Le parent n'est pas là pour être le contrôleur de l'enfant. Moi, ma perception, c'est que le parent, c'est un peu comme un tuteur pour une plante. Le tuteur, tu le mets à côté de la plante pour que la plante pousse droit. Mais le tuteur ne contrôle pas la plante. Le parent, c'est le tuteur de l'enfant.
Je trouve que tu te récites.
C'est bien dit.
Ça va bien, tes enfants. Tu te récupères. Tu te rachètes bien, mon
Claude. Oui,
il
se récupère très bien, notre Claude.
Hey, Docteur Mayou, pendant que vous jasiez, juste un petit point. J'ai sorti un article sur l'adolescence, OK? La crise d'adolescence que plusieurs parlent. Ils disent une caractéristique propre à l'adolescence, c'est le besoin d'être entouré de ses pairs. Les ados ont souvent l'impression que les adultes ne comprennent rien à ce qu'ils vivent et que les plus jeunes sont trop bébés. Ils ne se sentent bien qu'entre eux et ont besoin de ces discussions interminables pour se comparer les uns les autres. Est-ce que c'est vrai?
C'est pas vrai. Non. Écoute, les adolescents, c'est comme les femmes. Faites un amalgame et vous êtes nécessairement dans le tort.
OK. Bon. Pensez, je trouvais pas ça fou.
Non. Alors, la crise d'adolescence ne touche pas plus de 20 % des adolescents. Mais ceux qui sont en crise font du bruit solide.
OK. Alors, faut arrêter de dire.
Alors,
bon, parfait.
Oui, oui, oui. L'infantilisation maintenant. Oui? Chapeau Valov, Auger et Yacine se font traiter d'adolescents dans notre journal local à la page 28. Les deux adolescents ont eu du mal au service pendant ce match, hier à New York. Infantilisation. Chapeau Valov, il a eu 19 ans au mois d'avril. Il a 19 ans et demi. Hey, la nouille qui a écrit l'article. Ça fait une secousse que son adolescence est terminée, lui-là.
Ça fait un petit bout de
Il y a plusieurs joueurs de hockey qui commencent, débutent dans la Ligue nationale à 18 ans et demi. Auger Eliassine, un peu plus jeune, vient d'avoir 18 ans. Alors, l'infantilisation, là, ça, là, c'est limite. OK? La grand-maman. Grand-maman qui vend de la dope,
ben
qui vend de l'ectasy.
Oui, je veux qu'on en parle. Attendez un petit peu, là. Là, on va replacer la... Là, on parle du même dossier. Vous savez, le pitbull qui a attaqué des enfants, là, dans un appartement de Montréal-Nord. Là, aujourd'hui, on apprend dans le Journal de Montréal que la grand-maman qui avait eu le jugement d'amener ce pitbull-là, elle vend de l'ectasy avec sa petite fille de 3 ans. C'est pas extraordinaire? Hey, dans la catégorie de jugement, je pense qu'on bat des records.
Oui, oui. On l'appelle grand-maman. Hein? C'est une grand-mère. C'est une pauvre. C'est une criminelle.
Elle a plaidé coupable à trafic de stupéfiants, puis elle vendait ça que sa petite de 3 ans. De toute beauté.
Oui, alors la rhétorique infantilisante. Et ce matin, vous vous faites ramasser. J'y reviendrai après. Oui. Vous vous faites ramasser par l'Allemagne, à nouveau.
Oui.
2000 manifestants qui veulent régler le compte. Là. Vous savez, les immigrants en Allemagne, marché fesses serrées. Alors, il y a deux jeunes étrangers, un Syrien, un Irakien, qui ont tué un Allemand de 35 ans. On connaît pas les faits de la cause, mais il y a 2000 jeunes Allemands qui ont descendu dans la rue et qui se sont lancés dans une petite chasse collective aux immigrants. Alors, les immigrants en Allemagne marchaient les fesses serrées. Est-ce bien clair?
OK.
Bon. On n'est pas au Québec, là. Gna 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 gna, là, grand-maman, là, oh...
OK, j'essaie de trouver votre lien entre les deux dossiers. OK, on est toujours dans l'infantilisation, là, c'est ce que je comprends.
Oui, hey boy. De temps en temps, on a avantage à lire les manchettes qui nous viennent d'Allemagne. L'autre affaire au niveau infantilisation, toujours dans le même chapitre, puis on va terminer avec l'allaitement maternel.
Oui.
Les robots tueurs ne sont plus de la science-fiction. Écoute, pour paraphraser ce cher Feu Simoneau, Racha Abdul Rahim, conseillère d'Amnesty International, là, elle demande à l'ONU d'interdire les robots tueurs. Sniff, sniff. Okay. Avant qu'il soit trop tard. Bon, alors Racha, une manchette il y a quelques mois à peine, 3 mois, France, Angleterre, États-Unis, ils ont arrêté une couple de navires devant la Syrie. Missiles téléguidés, ils ont fait sauter les usines de chlore avec qu'avait utilisé, supposément, le grand premier ministre, le grand président de la Syrie, comment il s'appelle, Serge? Comment il s'appelle? Son nom m'échappe tout d'un coup.
Attendez, là, moi aussi j'ai un blanc. Là,
on va le chercher.
En tout cas.
Assad. Ça arrive. Là, je m'excuse, vous me prenez un peu...
Bachar al-Assad.
Oui, c'est ça.
Bon, Bachar avait...
Bachar al-Assad, c'est ça.
Oui, Bachar al-Assad. Il avait chloré une coupe de petits villages, une coupe d'agglomération, puis du chlore pur, ça cuit, tu sais. C'est pas joli ce que ça fait. On étouffe, ça brûle les voies respiratoires. Alors, c'est très souffrant comme massacre. Et alors, c'est grâce à des missiles téléguidés. Il faudrait informer Racha que l'histoire des drones, l'histoire des missiles téléguidés, on est dans les engins téléguidés où il n'y a personne, il n'y a pas d'humain là-dessus, là.
OK, je veux juste qu'on revienne. Dans le fond, quand on parle des robots tueurs, c'est ces espèces de systèmes automatisés. Il n'y a pas d'humain, là. Ça permet d'identifier ou d'éliminer des cibles, mais c'est juste un robot, là. On l'envoie.
Téléguidé, c'est ça.
Okay.
Écoute, le précurseur, c'est le missile téléguidé.
Ouais, c'est ça. OK.
Avec la tête chercheuse, là, sensible à toutes sortes d'affaires, puis avec des caméras, etc. Alors, missiles, drones, ce sont tous des engins téléguidés qui peuvent aller vous bombarder. Alors, il y a eu un bon côté. Faudrait informer Racha de ce fait-là. Ça a sauvé bien des vies, là. Parce que Bachar, il a tendance à être un peu cruel. Et pas trop de misère avec ça. Alors, ceci étant dit, nous allons terminer par l'allaitement maternel.
Et sous quel aspect?
Oui, du THC dans son lait après 6 semaines. Oui. Ah, c'est une étude qui a été publiée dans rien d'autre que Pediatrics. C'est la revue la plus populaire des pédiatres américains. Et il y a quelqu'un qui a fait une étude qui a été publiée dans Pediatrics, ça doit être assez sérieux, où on a découvert que le THC, le pot, le principe actif du pot, était encore présent dans le lait maternel 6 jours après avoir été consommé par la mère.
Ouais, puis
je vous ai toujours dit une chose. Il est important, et ça a été fait en Californie, l'étude, pays où le pot est légalisé. Je vous ai toujours dit que le pot est fortement consommé par beaucoup de monde. OK?
Oui.
Nous en connaîtrons les effets que lorsque ce sera légalisé. Pourquoi la légalisation? Pour que les chercheurs puissent l'étudier comme il faut. C'est important, les amis, afin de disséminer l'information. Bel exemple ce matin. OK? Alors, le pot, pour des raisons qu'on ignore, demeure dans le lait maternel 6 jours après sa consommation. Il est tenace, le pot!
Bien, puis ça vient contredire même d'autres études sorties auparavant. Parce qu'à l'époque, là, il n'y a pas si longtemps, on disait, oh oui, on le sait que pendant quelques heures, ça demeure. Mais là, 6 jours, on est loin de ça, là.
Oui. Alors, une poteuse, maintenant, ce qu'on sait pas, attendez bien, question, est-ce que le pot, quand une femme enceinte prend du pot, est-ce que le pot qui est dans son sang, le THC qui est dans son sang, va passer le placenta pour se retrouver dans le sang du bébé?
Ça, on le sait pas.
Je sais pas. Mais on va le savoir, ça ne sera pas trop long.
Oui, bien, il va falloir, parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup, en tout cas, on commence, on ne dit pas vrai qu'on a beaucoup, on commence à étudier le fait que, on constate que la consommation de marijuana, ça modifie la composition du lait maternel, mais l'impact sur le bébé,
on ne le sait pas encore.
On le sait
exactement.
Pas encore, là. C'est ça
qui est. Et maintenant,
reste...
l'impact sur le fœtus dans le ventre de la poteuse.
Oui. Fait qu'on a beaucoup de, travail à faire, Dr. Mayou.
Oui.
Mais ça, on
mais
a
c'est,
pas...
c'est relativement simple.
Mais il faut légaliser pour étudier le phénomène,
ben,
c'est ça?
Ben oui, parce qu'autrement, écoute, on ne peut pas avoir des groupes commencer à ramasser des poteux alors que c'est criminel.
Non, ça je comprends.
Ils vont se faire arrêter. La liste du chercheur va être remise à la police ou va être infiltrée par la police. Tu sais, les policiers, ils ne sont pas toujours très travaillants. Parfois, ils prennent des raccourcis. Respectueusement dit. Ça peut arriver, n'est-ce pas, cher policier?
J'aime toujours le fait de vous rajouter respectueusement dit. Oui, c'est peut-être nécessaire. Il faut faire attention.
Bon, je vous écoute, là. J'ai assez parlé.
Le sujet est intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Est-ce que vous pensez que dans certaines universités, on est prêt puis on attend la légalisation pour dire, OK, on prépare une grosse étude, on va l'analyser sérieusement, ce processus-là, parce que ça inquiète
Définitivement. Parce que, par exemple, de prendre un échantillon de sang du bébé à la naissance chez les toxicomanes pour voir qu'est-ce qu'on va retrouver comme produit, ben oui, parce que si, c'est très facile à faire, mais les policiers vont s'infiltrer dans la liste des patients d'hôpitaux et lorsque c'est illégal, pourraient arrêter ou mettre sur une liste de consommateurs de drogue, de criminels, considérés comme criminels, ce que l'hôpital aurait découvert.
Docteur Mayou.
Oui, tout à coup.
Mais permettez-vous d'introduire un auditeur, Serge. Je pense qu'il y a un propos intéressant. Bonjour, Serge.
Bonjour, Catherine. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Serge, vous êtes camionneur. Expliquez-nous. Vous voulez parler de THC de quelle façon?
Voilà. Nous, ils nous testent aléatoirement.
Oui.
Ils font des tests aléatoires.
Tests d'urine ou de sang?
Exactement. Des tests d'urine.
Parfait.
Ils retrouvent des traces de THC jusqu'à 21 jours.
Ah oui? Bon,
en tout cas, c'est ce que vous affirmez. Je ne savais... Là, écoutez, ça dépend des outils. Ça dépend de l'appareil utilisé. Mais c'est possible. Écoutez, je le sais pas.
C'est ce qu'on vous a dit,
ça? Eux envoient ça à des compagnies là, pharmaceutiques privées là, qui font des tests.
Ouais.
Mais donc.
Après 10 jours pour que le résultat revienne à la compagnie.
Oui.
Puis il y a plein de gars qui se font pogner.
Oui, mais 21 jours, là, c'est.
Bon, ça reste à voir.
Je voudrais bien vous croire, Serge, mais nous allons attendre le résultat d'un groupe de chercheurs sérieux qui, comme l'article publié dans le Pediatrics, va nous dire, on détecte 6 jours, jusqu'à 6 jours après la consommation de pot par la mère, la présence du THC dans son lait.
Mais Serge, moi, ce qui m'intéresse, outre ça, parce que bon, ça reste à voir, mais les comme vous dites, les gars qui se font pogner, là, il arrive quoi?
Ben, sont suspendus, puis si tu te fais pogner plus qu'une fois, ils t'offrent d'aller sur un programme de désintoxication.
OK.
Si tu te fais pogner après ça, ben, c'est au revoir.
Ah oui? Donc, puis...
Oui.
OK, j'apprends ça ce matin. Fait que c'est la compagnie, votre compagnie de camionnage qui teste ces gars pis ses filles, c'est ça?
Oui.
OK.
Oui. Mais maintenant, avec la légalisation, ça va devoir changer. Alors, ce ne sera pas les traces 21 jours qui vont être importantes, mais la dose retrouvée, probablement. Je présume.
OK.
Ah, oui.
Comprenez-vous, Serge? Parce
que je suis pas un expert
à la matière, ben oui, à partir du moment où ça va être légalisé, les poteux, camionneurs ou pas, vont pouvoir poter les fins de semaine lorsqu'ils vont être en congé.
C'est ça.
OK, ben Serge,
c'est combien d'heures? Combien d'heures ou de jours après avoir poté, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour conduire une vanne?
Ouais. C'est ça.
Hey Serge, les speeds puis les stimulants là. Avez-vous entendu parler de ça comme camionneur,
ben oui,
vous?
Ben oui. Quand j'ai commencé, j'ai 57 ans, moi.
Oui.
Quand j'ai commencé, moi, à travailler, là, je faisais du Nouveau-Mexique, là, puis il y avait ça des petites villes mexicaines.
Oui.
Des jurons, comme des jurons du Deux-Pierres.
Oui. Avez-vous déjà essayé ça?
Bon, j'ai déjà essayé ça dans mon jeune temps,
oui. Ah
ouais? Ouais, mon Serge? On vous donnera pas le certificat de Mme Blancheville ce matin, vous. On va le garder pour Sonia Lebel.
Non, mais je pense que j'ai 57 ans.
Non, mais t'es assez honnête pour nous l'avouer.
Ben, c'est pas...
Oh, oui, c'est quand même moi, oui.
Oui, mais écoute, faute avouée n'est pas pardonnée.
Non, c'est pas ça que je vous dis.
Il y a beaucoup de camionneurs, moi. Il y a beaucoup de camionneurs, docteurs, qui conduisaient sur l'effet de ces petites pelules-là, là, 30 ans.
Je suis pas Ritalin, ça vous dit-tu quelque chose?
Du
Ritalin,
ouais, mais j'ai jamais
pris
ça.
OK, mais vous êtes au courant? L'Adderall, le Vivance, et quoi d'autre que vous connaissez comme pelule là, que les gars prennent?
Ben, maintenant, là, pas grand-chose, là. Mais moi, je vous parle de ça avant l'avènement.
Ouais, mais donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans le truck, vous? Pardon?
Moi, quand j'ai commencé à camionner, là, il n'y avait pas de logbook. Les camions roulaient du dimanche soir à minuit au samedi soir à minuit.
Oui.
Le dimanche, on n'avait pas le droit d'aller sur les routes.
Oui.
Puis là, c'est plus ça, là.
Oui, mais Serge, je m'informais des différentes drogues qu'utilisent vos collègues. Comment ça se fait que vous n'êtes pas plus renseigné que ça? Vous jasez pas avec les autres?
Mais je trouve qu'il n'est pas plus renseigné.
Oui, mais c'est sûr que les gars, ça prend une heure qu'ils prennent en cause.
Qu'est-ce qu'ils prennent? C'est ça qu'on veut savoir.
Ils prennent quoi, Serge?
Ben oui!
Il y a des gars qui font de la coke, c'est vrai.
Cocaïne, speed,
N'importe quoi qui réveille.
Mais Serge,
n'importe quoi qui réveille.
Question supplémentaire, le pourcentage de camionneurs qui prennent une substance quelconque, selon vous, y en a-tu tant que ça?
Je vous dirais moins qu'avant.
Moins qu'avant.
Serge!
Moi, je pense qu'il y en a.
Allumez un matin, là. Hey, on va vous donner une coupe de gifle, là.
Non, docteur Mayou, là. Ça va
le pourcentage, Catherine vous a demandé, elle vous a pas demandé s'il y en avait plus ou moins. Elle vous a demandé le pourcentage d'après votre évaluation. Vous avez 57 ans, là.
J'irais 50%.
Oh!
Bon, merci, mon Serge.
Merci, Serge, de votre appel.
Hey, quand on questionne, on a des réponses.
Oui, mais merci.
Prends
beaucoup
du temps, par exemple.
Docteur, merci, Serge.
Merci, Serge.
Vous pouvez rappeler, là. En général, on est dans la douceur. On essaie d'obtenir des réponses.
Non, Serge, il faut y brosser la mop un peu.
Ça, je vous laisse ça. Vous êtes bon là-dedans. Merci, Serge.
Mais peux-tu y rire?
Bon,
il est bon joueur.
Il va rappeler. C'est incroyable. Vous ramassez le monde, puis il vous rappelle. Vous avez un don. C'est de toute beauté. Bon, mais bref, on a appris.
Il sait où je m'en vais.
Ben oui, je le sais.
C'est bien intentionné. On veut savoir la vérité.
Okay.
Les maudites niaiseries, on n'en a pas besoin.
Ouais, mais la vérité.
L'infantilisation, c'est ça.
Ouais. La vérité frappe ce matin. On aura l'occasion de s'en jaser, mais on est en train de dire ce matin que 50% des gars, c'est beaucoup d'hommes, là.
Oui, oui, c'est les camionneurs.
Sont sur une substance quelconque, là. Coke, speed.
Nous a révélé Serge de l'intérieur.
Ouais, ben c'est ça.
Alors, les gars, appelez.
Ouais.
Appelez pour nous dire que c'est pas vrai.
Ouais, c'est sûr que ça risque d'être plus tranquille. Appelez sous le couvert de l'anonymat. Il y a les courriels aussi. Courriels, ça fait toujours la job.
Ben oui, anonyme.
Ouais.
Tu comprends pourquoi anonyme, vois-tu?
Ah oui.
Première mise en garde que tu fais, anonyme.
Ouais.
Parce que c'est illégal.
Ben voilà. Ben, j'ai pas le choix. Puis je...
Merci.
Okay.
C'est pour ça que ça fait 20 ans que je me bats pour la maudite légalisation du sacrement de pote.
Non.
Pouvoir l'étudier, pour pouvoir en parler, pour pouvoir savoir quel est le pourcentage d'individus qui l'utilisent. Et qu'est-ce qu'on va faire?
On n'a pas fini d'en parler, ça c'est sûr. Docteur Mayou, il faut s'arrêter,
7h31. Hey. Allez-vous. Mais de la broue, c'est à mon tour. Ben, là.
Oui, c'est à votre tour, la goutte dans le front, bon, allez vous reposer un peu. Parce que vous l'avez cuisiné pas mal. Maudit Mayou, il y en a qui disent. À tantôt, Docteur Mayou, 9h05 pour la commission PM.
Ben.
Je l'ai dit avec un clin d'œil, vous comprendrez.